Décryptage, Marie Cazadebé.
L'Irak est à deux jours d'élections législatives, les premières depuis la chute de l'État islamique. Le groupe terroriste a été éradiqué il y a moins d'un an, mais pas le terrorisme. Et les séquelles de la guerre sont encore évidentes. Des villes en partie détruites dans les zones autrefois occupées et des centaines de milliers d'Irakiens toujours déplacés, comme cet homme qui vit dans un camp à Bagdad.
Plusieurs familles qui vivaient ici dans le camp ont préféré rentrer chez elles après la libération de leur village. Elles ont passé une semaine ou deux dans leur maison et elles sont revenues au camp. Dans leur village, il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'école pour leurs enfants, contrairement à ici, à Bagdad, sans parler du fait qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et plus de centres de soins.
Et malgré tout, il y a un parfum d'espoir autour de ces élections, une envie de changement, de tourner la page d'une histoire trop souvent violente en Irak et d'un quotidien trop affecté par la corruption. Alors qu'attendent les Irakiens de ces législatives? De quelle manière la récente guerre contre Daesh va influencer ce scrutin? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Karim Pakzad.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, spécialiste de l'Irak. Nous sommes aussi en direct de Bagdad avec nos envoyés spéciaux, Richard Rifono à la technique et Sami Boukhalifa. Bonsoir Sami.
Oui, bonsoir à tous.
Alors vous qui êtes sur place, Sami, est-ce que vous ressentez un certain engouement autour de vous pour ces élections législatives donc de samedi?
Oui, écoutez, les Irakiens disent que c'est un véritable tournant. D'abord parce que il y a cette volonté de changement, changer les dirigeants, renouveler la classe politique considérée comme corrompue, et ensuite parce que c'est la première fois que les Irakiens se dirigent vers un scrutin dans une période relativement calme, sans gros problèmes. En mettant cette expression entre guillemets. En tout cas, voilà, si on se tourne vers le passé, l'histoire récente de l'Irak, depuis 2003 et l'invasion américaine, donc le pays vit dans un chaos constant. Durant ces 15 dernières années, il y a eu déjà 3 élections législatives et ces précédents rendez-vous électoraux ont tous été marqués par la guerre civile, le terrorisme, avec Al-Qaïda d'abord, le groupe État islamique ensuite. Donc voilà, certes la guerre contre le terrorisme se poursuit toujours, mais le groupe État islamique comme entité qui contrôle un territoire en Irak a cessé d'exister. Et donc, pour les Irakiens, cela pourrait ouvrir la voie vers un avenir meilleur.
Karim Pakzad, vous aussi, vous voyez ces législatives comme un tournant pour l'Irak?
Oui, à mon avis, c'est l'élection la plus importante depuis l'invasion américaine en 2003. Bon, il y a eu d'autres élections, deux autres élections législatives, comme votre correspondante a juste titre à souligner que ces précédentes élections ont été marqué par des divisions communautaires et même confessionnelles. Et pour la première fois que l'Irak organise, au-delà d'une situation sécuritaire relativement mieux qu'avant, parce que vous avez vous-même souligné que Daesh a été vaincu militairement, même s'il existe encore des réseaux que l'on appelle Daesh qui organise de temps à autre des attentats, notamment contre civils irakiens, notamment toujours contre les chiites. Mais malgré ça, l'Irak se retrouve sur le plan sécuritaire dans une situation et ce secrétaire de 12 mai, donc ça se passe relativement sur le plan sécuritaire, et on va parler également, et surtout il faudrait, c'est le point le plus important, c'est les grands enjeux de ces élections.
Parce que cette année, au lieu qu'il y ait énormément de partis qui se présentent comme d'habitude, ce sont des grandes coalitions. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous notiez, c'est que finalement, elles regroupaient plusieurs communautés qui, il y a quelques années, finalement, se seraient présentées les unes contre les autres.
Oui, absolument. Dans le passé, par exemple, les chiites qui sont majoritaires dans le pays, hein, il faut pas l'oublier ça, même s'ils avaient 2 ou 3 listes, quand même, ils avaient dans une perspective unitaire pour constituer la majorité parlementaire et puis diriger le gouvernement. Mais cette fois-ci, certains critiquent le fait que maintenant les différentes communautés sont divisées, que les forces politiques sont fragmentées. Mais moi, je pense que pour la première fois depuis maintenant 16 ans, l'Irak l'Irak va dans une élection majeure, moins sur le plan confessionnel, beaucoup d'avantages sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle il y a des listes où, voilà, on
voilà.
se trouve différents.
Un exemple, une coalition assez inédite, hein, qui rassemble des chiites conservateurs, des communistes et des laïcs. Mohamed Elfi est l'un des responsables de campagne de cette coalition appelée la Marche pour les réformes.
Ouais.
Notre alliance avec les communistes est dans l'intérêt du pays. Elle dépasse les questions idéologiques, islamiques ou communistes. Nous voulons des dirigeants compétents, peu importe leur appartenance politique. Au final, nous sommes tous irakiens et nous avons un objectif commun, chasser les corrompus du pouvoir.
Les chiites, donc du leader Moqtada al-Sadr, et les communistes dans une même liste, Karim Pakza, ça s'était jamais vu, ce genre d'alliance.
Oui, pour un occidental qui est habitué à la division idéologique et politique des partis, c'est assez étonnant. Je me trouvais à Bagdad il y a un an et demi, juste au moment où il y avait eu beaucoup de manifestations publiques, des contestations de la politique gouvernementale, et notamment le mot d'ordre de ces mouvements était il faut mettre fin aux corrompus, il faudrait chasser ces ministres des partis politiques, etc., du gouvernement, et il soutenait en même temps la revendication de Ali Badi qui voulait mettre en place un gouvernement de technocrates. Parce que les partis politiques, sur la base confessionnelle, sont réputés corrompus en Irak. Et donc, ce mouvement était composé par trois éléments. Moqtada al-Sadr, qui était chef de l'armée de Mahdi, qui luttait contre les Américains, qui avait le visage d'un extrémiste en Occident. Or, il a fait de ce mouvement son mot d'ordre, c'est l'Irak d'abord, avant la communauté. Pardonnez-moi de compléter. Et c'est pourquoi le parti communiste irakien, dont en passage je dois dire que son secrétaire général, c'est-à-dire numéro 1, un franco-irakien, qui est habitué à la démocratie et au combat laïque, pourquoi il a fait une coalition avec Moqtada al-Sadr et avec des personnalités venant de la société civile? C'est parce que les Irakiens voteront cette fois-ci essentiellement pour chasser des corrompus.
Voilà. Ouais. On va venir évidemment à la corruption. Juste un dernier exemple, Karim Pakza, d'une alliance qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a une autre liste comme ça qui vous vient en tête et qui représenterait justement ce souhait de mélanger les communautés?
Oui, la principale liste électorale, à savoir la liste de qui s'appelle Nasr al-Irak, à savoir la victoire, la liste de premier ministre.
Du premier ministre, Haider
al-Abadi. C'est une liste composée des chiites et des sunnites. Mais au-delà de ça, il y a d'autres listes. Il y a une des deux grandes listes des arabes sunnites, majoritairement arabes sunnites, et conduite par exemple par Ayad al-Alawi. Ayad al-Alawi, c'est un chiite, laïque évidemment, mais c'est un chiite qui actuellement est vice-président de la République, mais qui au début de l'invasion américaine, c'était un protégé des Américains, qui a été premier ministre pendant quelque temps. Donc voilà, il y a des éléments qui montrent que le confessionnalisme en Irak recoule, et ça c'est très important.
Sami Boukhelifa, à Bagdad, vous, en quelques mots, vous l'entendez, ça, cette envie justement de sortir de cette spirale de la confrontation entre les communautés?
Alors en théorie, oui, on l'entend, et donc c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'ils nous disent ici, les Irakiens. Maintenant, est-ce qu'ils vont concrétiser leur volonté par le vote? On verra les résultats, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que les partis politiques ont entendu et répondu à cette volonté populaire d'oublier les divisions confessionnelles et le sectarisme.
Alors la guerre contre l'État islamique marquera forcément ces élections et son déroulement. Le pays compte près de 300 000 déplacés vivant dans des camps, sous des tentes ou des préfabriqués. Parmi eux, Mahmoud Moussa et sa famille qui ont fui leur village à l'est de Mossoul il y a 4 ans. Ils vivent depuis sous une tente à Bagdad.
On est parti à cause de Daesh et aujourd'hui nous ne pouvons plus rentrer chez nous. Dieu merci, notre maison est toujours debout, mais il n'y a plus d'eau et plus d'électricité. Il faut 4 heures pour rejoindre notre village depuis Mossoul. Il n'y a pas de route et il faut emprunter une piste poussiéreuse. S'il pleut, notre village est coupé du monde et plus personne ne peut y acheminer de vivre. Si je vote, je choisirai un candidat qui ne sera pas corrompu et qui œuvrera pour les déplacés. J'ai quelqu'un en tête, c'est un député qui se représente et durant son précédent mandat, il nous a beaucoup aidés.
Sami Boukhalifa, cet homme que vous avez rencontré il y a quelques jours, va donc pouvoir voter samedi, malgré le fait qu'il ne soit pas dans sa ville d'origine ?
Tout à fait, il va pouvoir voter. Les autorités ont veillé en fait à ce que les déplacés aussi puissent glisser le bulletin dans l'urne. Leurs papiers d'identité ont été renouvelés et comme le vote ici en Irak est électronique, donc il pourra voter directement dans son camp de déplacés. Et le problème, c'est que c'est un peu l'incompréhension du côté des déplacés parce qu'ils nous disent « Ah, finalement, en fait, lorsque l'administration le veut bien, lorsqu'elle veut faire preuve d'efficacité, nos papiers d'identité sont rapidement renouvelés. Par contre, lorsqu'il s'agit de rétablir l'eau, l'électricité, les services, nous aider à reconstruire nos villages détruits durant la guerre, eh bien là, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que ces déplacés ont d'abord exprimé cette semaine leur colère en disant « nous allons boycotter les élections ». Mais maintenant, ils disent « finalement, non, nous allons voter, mais ça ne sera pas un vote d'adhésion, ça sera plutôt un vote de sanction pour sanctionner tous ces dirigeants qui nous ont oubliés durant toutes ces dernières années. Et puis aujourd'hui, à l'approche du vote, on vient nous voir et on nous promet monts et merveilles.
Karim Pakzad, ça reflète quoi cette colère des déplacés qui dit finalement quand on a besoin de nous pour voter, on pense à
oui,
nous.
Oui, évidemment. D'abord, c'est compréhensible. Hein, lorsqu'on est dans la misère, dans la détresse, lorsqu'on a tout perdu, qui vivent sur des tentes, évidemment, quand ils voient que leur papier d'identité est devenu électronique, bon, mais il faudrait savoir que le gouvernement irakien a annoncé, il y a quelques mois, c'était la conférence des donateurs en Irak, le besoin immédiat pour surmonter les séquelles de la guerre, reconstruire certaines les habitations des villes, pas seulement Mossoul, hein, il faudrait savoir, il y a d'autres villes qui sont détruites avant Mossoul, Ramadi, Fallujah, Tikrit, etc. L'Irak a besoin de 20 milliards de dollars. Or, mais la mise en place d'un système électronique de carte d'identité demanderait quelques dizaines de millions de dollars. Donc, ce n'est pas la même chose.
Alors mais, on parlait de 20 milliards de dollars. Le Premier ministre lui a estimé les besoins du pays à 100 milliards de dollars.
Oui, à long terme, l'Irak a besoin entre 88 et 100 milliards de dollars. La conférence des donateurs, jusqu'à maintenant, lui en a accordé 30 milliards de dollars seulement. Mais parmi ces 80 ou jusqu'à 100 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, ils ont besoin immédiatement.
Un besoin urgent. Et Sami Boukhalifa, vous l'avez bien ressenti puisque vous êtes rendu à Fallujah, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Cette ville a été partiellement détruite. Maintenant, elle est libérée de Daesh. Hein, ça fait presque 2 ans. Et depuis, presque rien n'a bougé. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui ?
Tout à fait. Disons que à Fallujah, la vie reprend timidement. Il y a des commerces, des restaurants qui sont ouverts, mais il y a aussi beaucoup de maisons et d'infrastructures qui sont détruites et les écoles sont fermées. La ville est encore déserte, disons, parce que les habitants en fait vivent tous à quelques kilomètres de Fallujah. Ils sont sous des tentes aux portes de Fallujah, au milieu d'un paysage aride et poussiéreux. Il y a un camp de déplacés avec cette population qui se sent abandonnée à son triste sort au milieu du désert. Les hommes n'ont pas de travail, donc pas de ressources pour les familles. Et voilà la situation en fait des déplacés aujourd'hui en Irak.
Karim Pakzad, quel est le problème avec la reconstruction de l'Irak ? Est-ce que c'est vraiment un problème de moyens. On entend certains habitants de Mossoul, par exemple, parler aussi de détournement de l'argent de la reconstruction. Est-ce que ça fait partie du problème ?
Oui, évidemment. Vous venez de citer Mossoul. L'ancien gouverneur de Mossoul, qui a été arrêté pour la corruption, puis après a été libéré, après sa libération, il a annoncé qu'il prendrait en charge personnellement la climatisation de l'ensemble de prisons. Vous voyez la richesse que certains...
La climatisation
de la prison, de l'ensemble de la prison où il se trouvait. Donc vous voyez que c'est un exemple parmi des dizaines qui montre que en fait la classe politique traditionnelle irakienne et ce n'est pas une seulement une réputation, effectivement l'Irak c'était l'un des pays les plus corrompus dans le monde et c'est la raison pour laquelle le succès. Donc c'est ces deux mouvements, la marche vers le changement de Muqtada al-Sadr et du Parti communiste et de la société civile, c'est qu'ils ont fait de la lutte contre la corruption, qui pour dire il faut chasser les corrompus.
C'est vraiment un argument de campagne de la
non,
plupart.
Non, c'est la réalité. Évidemment.
Mais c'est une réalité que les Irakiens vivent au jour le jour. Et les candidats aujourd'hui aux législatives leur répondent, leur promettent aussi des efforts dans ce sens.
L'ensemble des listes ont fait de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. À titre d'exemple, par exemple, lorsque Haider Ebadi n'est pas parvenu à faire une liste commune avec le chef du mouvement Shahad al-Shaabi, ce qu'on appelle l'Occident des miliciens ou des milices chiites,
voilà,
et que le chef de Shahad al-Shaabi, monsieur comment s'appelle déjà Amri, voilà, Hadi al-Amri a constitué sa propre liste. Monsieur Al-Ebadi a accusé cette liste et son chef de ligne, qui est un chiite, hein, de corrompu, de corruption. Il a annoncé même que des personnes au sein même de la liste lui informaient le système de corruption qui a été mis en place. C'est-à-dire que l'ensemble des forces maintenant... Les électeurs irakiens, ils feront tri entre différentes listes.
Ça n'a pas l'air simple, en tout cas, de faire le tri. Si tout le monde, en plus, commence à s'accuser chaque fois de corruption, ce qui va être aussi difficile pour les Irakiens, c'est d'aller dans les urnes sans avoir peur aussi de la violence.
Mais il faut dire, comme souligner que Monsieur le Premier ministre a une réputation d'un homme propre.
Oui, tout à fait. Haider Al-Abadi, qui d'ailleurs est l'un des favoris. En tout cas, c'est dans un contexte sécuritaire, vous l'avez dit, meilleur, mais quand même délicat, que vont se dérouler ces élections. Lundi, l'État islamique a revendiqué l'assassinat d'un candidat de Mossoul. Dans un message audio, le porte-parole de l'organisation terroriste menaçait de s'en prendre au bureau de vote et aux électeurs, surtout les musulmans sunnites. Écoutez, en janvier, cet officier de l'armée irakienne qui préférait conserver l'anonymat.
Tous les Irakiens s'attendent au pire. Avec l'approche du scrutin, il va y avoir de plus en plus d'attentats. Les attaques de ce lundi à Bagdad n'ont pas été revendiquées. Qui est responsable ? Al-Qaïda ? Daesh ? On l'ignore. Pour nous, Daesh a été éradiqué. Il y a de quoi se poser des questions. Bagdad est une capitale fortifiée. Par où passent les voitures piégées, les terroristes ? Mais nous, au sein de l'armée, nous avons la réponse. Il y a des complicités. Certaines autorités, certains partis politiques sont complices.
Karim Pakzad, pourquoi ce sont les électeurs sunnites finalement qui sont les plus menacés ?
Il a été plus menacé, les électeurs sunnites, et aujourd'hui ils sont menacés uniquement par Daesh.
Par Daesh, bien sûr.
Puisque Daesh, comme vous le savez, c'est un mouvement extrémiste arabe sunnite. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que leur corps religionnaire, enfin les sunnites arabes qui étaient la base de ce mouvement dans le passé, puissent participer à des élections qui, d'après Daesh, va légitimer les chiites.
Sami Boukhelifa, pour conclure cette émission, il nous reste quelques secondes, mais en tout cas ce problème de sécurité, cette peur des attentats, est-ce qu'elle pourrait peser sur la participation ?
Alors j'ai posé la question ce matin dans la rue ici à Bagdad et la réponse a été « Si je ne vais pas voter, c'est pour ne pas donner ma voix à un candidat corrompu, mais certainement pas à cause d'inquiétudes sécuritaires. » Donc je ne crois pas que les menaces du groupe État islamique auront une incidence sur le vote, à moins qu'elles soient mises à exécution à la veille du scrutin.
Des élections que l'on va suivre grâce à vous, Sami Boukhelifa et Richard Ifono qui vous accompagnent à la technique. Merci beaucoup Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Fabrice Violet était à la réalisation.